BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Stéphane Pedrazzi.
La Bourse de Paris est repassée au-dessus de la barre des 8000 points. On est à 1h30 de la fin de la séance. Le CAC Haute-Kersulec progresse de 0,32%.
Oui, c'est vrai, on monte aujourd'hui encore après déjà une séance de hausse hier et heureusement qu'en Europe on a quand même des résultats d'entreprise, des publications de chiffres d'affaires pour nous animer cette séance. Aujourd'hui on arbitre Danone, Edenred, Forvia ou encore FDJ, on va voir ça.
Une baisse des taux est-elle encore possible aux États-Unis? L'indice de la Fed de Philadelphie indique en effet une très forte accélération de l'activité au mois d'avril. Hier soir déjà, le livre beige de la Réserve fédérale évoquait une légère expansion de l'activité au mois de mars, très loin du ralentissement qui était encore attendu il y a quelques semaines. On en parlera avec nos invités du club tout à l'heure à partir de 17h. L'introduction en bourse de Planisware, le spécialiste français des logiciels dédiés à la gestion de projets, affiche une hausse de 25% pour sa première journée de cotation. Ce succès peut-il relancer les IPO à la Bourse de Paris? On en débattra dans la famille BFM Bourse tout à l'heure à partir de 16h30. Et puis on parlera d'investissement responsable. Est-ce qu'il fait toujours recette? Difficile depuis quelques mois d'égaler la performance des indices boursiers. Sans énergie fossile et sans le secteur de la défense, l'ESG doit-il s'assouplir? On posera la question à Vincent Auriac, le président d'Axilia, qui sera notre invité tout à l'heure à 16h45.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Beaucoup de publications à digérer aujourd'hui à la Bourse de Paris et pas mal de réactions à la hausse, Haute-Kersulec.
Oui, pour le CAC qui monte de 0,4%, c'est plus que les autres marchés, puisque sur le DAX, on prend seulement 0,13%, l'Eurostox 0,2%. Donc, qu'est-ce qui explique cette bonne performance de l'indice parisien? C'est vrai qu'on a une publication qui est à la plus forte hausse de notre marché parisien, c'est Edenred, plus 4,5%. Pourtant, c'était un titre qui était un petit peu malmené quand même ces derniers temps. Mais le chiffre d'affaires du premier trimestre, il est à deux chiffres. Il est même de 17%. En données comparables. Edenred qui dit avoir une croissance dans toutes les zones géographiques et puis qui en profite d'ailleurs pour confirmer ses objectifs annuels de l'année. Donc voilà, les investisseurs y voient un signal positif, plus 4,5%, 46,80€. Attention tout de même, on perd encore 14% depuis le début de l'année. Et puis il y avait une autre publication quand même aussi importante sur le CAC 40, c'est Danone. Danone, le chiffre d'affaires, il est de 6,8 milliards d'euros au premier trimestre. Là, on est à plus 4,1% en données comparables au premier trimestre. C'est important parce qu'en données publiées, on est en négatif à cause de la Russie notamment ou des taux de change. Mais donc, plus 4% en données comparables avec une bonne performance de l'activité haut de Danone. Et bon, c'est gentiment arbitré, on va dire, sur le CAC 40, puisqu'on a Danone qui prend 0,5%. Et puis ailleurs, en Europe, c'est les résultats, c'était hier le chiffre d'affaires. Je vous citais ASML tout à l'heure dans USA Today. Je rectifie parce que je vous ai dit qu'elle était en baisse de 10%, mais c'était une erreur de Google, en fait. L'action ne perd que 1,5%. Rendez-lui justice. Après 6,5%, déjà, c'était très rude hier. Donc, ASML, seulement moins 1,5% à 836€. Mais c'est vrai quand même que le secteur des puces n'est pas en forme, si on regarde ce qui se passe sur TSMC de l'autre côté de l'Atlantique.
Mais justement, est-ce que c'est le moment d'investir dans les semi-conducteurs? On posera la question dans quelques minutes à notre invité Jean-Edwin Réa de Quadrille Capital. Lui, il pense qu'il faut profiter de la baisse actuelle pour justement se positionner sur le secteur des semi-conducteurs. Gwenaël Lessard est avec nous, gérant de portefeuille chez Swiss Life Gestion Privée. Bonjour.
Bonjour.
Edenred, en forte progression, Aude le disait, plus 4,5%. La publication du chiffre d'affaires a été bien accueillie. Objectif financier également confirmé pour l'ensemble de l'année. Je crois que vous aimez bien cette valeur.
Oui, tout à fait. Il ne faut quand même pas oublier qu'elle avait été un petit peu attaquée les derniers mois, Edenred, sur les dégradations de brokers. Vous savez, il y a eu le problème d'amende en 2019 qui avait été payé en 2023 pour une entente commerciale et les enquêtes en Italie. Mais en fait, le business, lui, marche très très bien. Comme a dit Aude tout à l'heure, le chiffre d'affaires opérationnel est en hausse de 17%, donc supérieur au consensus. Il sort 625 contre un consensus de 608 millions d'euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus gros métier qui représente 65% du chiffre d'affaires, donc ses avantages aux salariés, c'est on va dire les tickets restaurants, les cartes restaurants, progresse de 17% en comparable. Donc c'est très bien. La mobilité, qui fait 24% du SAFER, progresse aussi de 20%, 23% cette année. Donc c'est vraiment très bien. Donc il y a juste deux petits bémols. C'est il y a un petit peu de croissance qui est pénalisée par la dévaluation du pétrole argentin en décembre 2023. Ça, c'est quand même assez récurrent. Et puis les solutions complémentaires qui sont en hausse que de 2%. Il y a une autre chose, c'est le chiffre d'affaires financier qui est en trop forte hausse parce que ils ont profité de la hausse des taux de la BCE à partir du T1 2023. Donc là, ils ont une année entière. Bon, ça, le marché le sait. Donc nous, on reste très positif sur Edenred. On a plutôt un objectif de cours entre 55 et 58 euros. Donc voilà, il y a eu un peu d'opportunité il y a quelques jours pour en faire. Et on estime que c'est encore très intéressant d'acheter Edenred sur ce cours. En plus, comme vous avez dit, ils vont maintenir leur guidance sur 2024 avec un EBITDA en croissance de plus de 12%. Donc, et en plus, sur le plan 2025-2026, ça va dans le bon sens. Donc, c'est sans doute une société avec pas mal de visibilité. Donc, c'est intéressant.
Autre valeur dans l'actualité, c'est Sartorius, le fabricant franco-allemand de fournitures pour les laboratoires médicaux. Il a publié un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 8%. On sait que le groupe est confronté à une baisse de la demande après les années de crise sanitaire. Et l'an dernier déjà, l'activité de Sartorius était confrontée à un net ralentissement. Le titre perd 17% cet après-midi.
On a l'impression qu'on revit un petit peu malheureusement 2023. Hein. Ils n'arrivent pas à redémarrer plus que ça suite aux très fortes hausses du chiffre d'affaires du Covid. Donc c'est un petit peu embêtant. Hein. Là, ils se mettent déjà un peu de pression parce que le chiffre d'affaires du premier trimestre, donc en baisse de 10% en organique, met une pression sur la guidance 2024. Même si le management a réitéré la guidance, donc c'est à peu près entre 5 et 10% sur cette année de croissance. Et une marge supérieure à 30%, ça met beaucoup de pression sur les prochains trimestres. Donc on espère que ça va commencer à s'améliorer. Enfin, on voit deux ou trois éléments légèrement positifs, c'est que ça s'améliore un petit peu au niveau des commandes, surtout ces Stedim. Mais le problème, c'est sur les ventes d'équipements en Chine et même en Europe, ça redémarre pas assez en fait. Et donc c'est là où est le problème. Bon, heureusement, ce qu'ils avaient acheté dans la thérapie cellulaire Polyplus, ça marche relativement bien, hein. c'est en hausse. Mais voilà, ça crée quand même une tension. On avait déjà eu ça l'année dernière, hein. Ils avaient déjà fait des profit warnings et puis après, ils avaient arrêté totalement leur guidance. On n'espère pas revivre la même chose sur 2024, sachant que c'est une société qui se fait très cher, hein, plus de 50 fois en PE. Donc, c'est quelque chose d'un peu risqué. C'est vraiment une société en trading. Hein. Quand elle est sur des gros mouvements de faiblesse, c'est peut-être à prendre, mais savoir prendre ses bénéfices dès que ça remonte un peu. Avant, là par contre, on manque vraiment de visibilité et chaque trimestre peut être un élément déclencheur à la baisse ou à la hausse en fonction des résultats qui sortent.
Voilà, société allemande, le titre est en baisse de 16,6% à la Bourse de Francfort et la filiale française cotée sur Euronext Paris est également en baisse de 16%, 207,20 € cet après-midi. Merci beaucoup Gwenaël Lessard, on retrouve de nouveau Aude Kersulec à Euronext. Aude, allez, la belle histoire du jour, c'est l'introduction en bourse de Planisware. Le titre gagne 25% pour sa première journée de cotation.
Oui, une cloche qui a sonné ce matin à Euronext et ça faisait bien longtemps. Alors, est-ce que c'est le signal des IPO qui reprennent ? On verra sur la durée. En tout cas, Planisware, l'IPO avait été annulé hein, il y a quelques mois. Là, ils sont revenus un peu en express, hein, un peu de manière inattendue, ce côté sur le marché parisien. D'ailleurs, c'est vraiment depuis 2024 qu'on peut faire ça hein, à Euronext, sans petit porteur et donc de façon express. Et d'ailleurs, pour le moment, les actions ne sont pas vraiment créées, elles sont virtuelles. Hein. Tout ça, vous pouvez le voir d'ailleurs dans le détail sur le site internet de BFM Business, l'article de Sabrina Sedghi. Alors, Planisware, on est dans la tech, hein, le logiciel avec des activités dites SaaS, hein, avec des logiciels qui fonctionnent comme des abonnements. Un taux de croissance, l'objectif, c'est au-dessus de 20%. Le prix d'introduction, il était de 16 euros. On tourne maintenant autour de 20 euros. Donc oui, une hausse de 25% par rapport au prix d'introduction. On peut la comparer à OVH, qui est d'ailleurs la dernière grosse introduction à tech à la Bourse de Paris. On était à peu près sur les mêmes cours d'introduction, autour de 20 euros. Maintenant, le titre se négocie en revanche autour de 9 euros, donc c'est un peu moins bon.
Merci beaucoup, Oudker Sulek, en direct du siège d'Euronext. Le cofondateur et le président de Planisware sera l'invité d'Edwige Chevrillon pour la grande interview ce soir à 18h15 sur notre antenne. Et est-ce que cette IPO réussie peut relancer les introductions en bourse à Paris? On en débattra tout à l'heure dans la famille BFM Bourse. Ce sera à partir de 16h30. Tout de suite, l'écho du monde.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Avec Samy Char, chef économiste chez Lombard Odier et compagnie. Bonjour Samy, ravi de vous retrouver. Cette question très claire cet après-midi, est-ce que des baisses de taux peuvent avoir lieu dans ces conditions aux États-Unis? On a eu il y a maintenant 2 heures la publication de l'indice de la Fed de Philadelphie et qui montre une très nette accélération de l'activité dans la région de Philadelphie. Alors ça n'est pas un chiffre national, mais c'est généralement un chiffre précurseur de l'activité aux États-Unis.
Oui, c'est la question du moment. Hein. On a basculé d'un scénario où on parlait de récession, on parlait de 6 baisses de taux en début d'année, à un scénario où finalement l'économie est trop forte et il n'y aura pas de baisse de taux. C'est vrai que les indicateurs économiques aux États-Unis sont très très solides. Vous avez mentionné cet indicateur, le Philly Fed, qui est un indicateur manufacturier, qui est un indicateur avancé de l'ISM manufacturier aux États-Unis. Mais on a aussi les inscriptions au chômage qui sont très basses. Donc tout ce qui sort des États-Unis aujourd'hui montre une économie qui fonctionne très très bien et donc qui ne légitime pas forcément des baisses de taux. Mais les baisses de taux se font sur une autre réalité qui est aussi la réalité de l'inflation. Et la réalité, c'est que l'inflation a pu baisser aux États-Unis malgré une croissance économique qui était quand même vigoureuse. Donc on peut avoir de la croissance qui n'est pas forcément inflationniste, parce que la productivité est là, parce que la Chine inonde le monde de biens pas chers. Et la réalité, c'est que la Fed doit se mettre en ligne avec la croissance, mais elle doit aussi se mettre en ligne avec l'inflation. Et l'inflation aux États-Unis, finalement, n'est pas très très élevée. Et si elle sort, dans les mois qui viennent, à des niveaux acceptables, eh bien, ça donnera quand même la possibilité à la Réserve fédérale américaine de recalibrer sa politique. Donc, peut-être pas énormément de baisse de taux, mais nous restons dans le camp de baisse de taux pour cette année, simplement pour refléter le fait que l'inflation a quand même pas mal baissé.
Mais est-ce que la situation en matière d'inflation est suffisamment claire? Jerome Powell le disait en début de semaine, les membres de la Fed n'ont pas une visibilité assez nette sur l'inflation pour s'engager en faveur d'une baisse de taux. Et cet après-midi, toujours dans la publication de la Fed de Philadelphie, la composante prix payé est passée de 3,7 à 23. Ça aussi, ça confirme le retour de l'inflation aux États-Unis.
Oui, c'est très important effectivement d'avoir une confirmation que les bons chiffres d'inflation qu'on a eu quelque part ces 12 derniers mois, ou cette amélioration depuis le point haut, continue. Et effectivement, quand l'activité est vigoureuse et certains signaux semblent indiquer que l'inflation pourrait se maintenir, on a en plus les problématiques géopolitiques qui peuvent abonder dans ce sens. Donc c'est vrai, la Réserve fédérale américaine doit gagner de la certitude que l'inflation est bien contenue. Après, il nous reste quand même pas mal de mois avant la fin de l'année. Encore une fois, l'inflation a pu retourner à des niveaux plus acceptables sans un grand ralentissement économique, sans une grande augmentation du chômage. Alors pourquoi prendre un risque économique pour la Réserve fédérale américaine si l'inflation quand même est en train de rentrer dans le rang? Vous avez raison, la composante prix du Philly Fed semble indiquer que peut-être il y aurait quand même certaines pressions. Mais d'un autre côté, la composante emploi était relativement faible dans cet indicateur-là. Donc, pour la Réserve fédérale américaine, il va falloir équilibrer quelque part la réalité de l'inflation avec le risque qu'on prend sur l'économie à maintenir des taux plus élevés. Il faudrait un chiffre du chômage mauvais pour ébranler un petit peu la confiance qu'aurait la Fed dans des taux plus élevés. Donc, on va être dans un environnement où, à mon sentiment, la Fed va devoir aussi gérer ce risque-là.
Oui. Et est-ce que la situation sur le marché immobilier américain peut également pousser la Fed à baisser ses taux? On a vu que les logements étaient de moins en moins accessibles, le prix des logements aux États-Unis, en raison notamment des taux de crédit. Le chiffre a été publié hier. Le taux moyen pour un prêt immobilier à 30 ans aux États-Unis est remonté à 7,13%. Là aussi, peut-être que la Fed devrait faire un geste pour aider les acheteurs potentiels.
Oui, il y aura des raisons pour baisser les taux. On pense bien sûr à l'immobilier commercial, qui est toujours aussi un point de faiblesse aux États-Unis. Mais avant tout, c'est l'inflation qui permettra à la Fed de baisser les taux. Il y a le sentiment quand même que l'inflation est très visqueuse aux États-Unis, mais elle est très visqueuse par des effets de composition dans le CPI, dans le CPI. D'autres indicateurs d'inflation comme le PCE, on est à 2,5 aujourd'hui aux États-Unis. Donc il va falloir qu'on gagne une forme de clarification dans les mois à venir pour permettre à la Fed de baisser. Mais mon sentiment, lorsque je regarde, c'est-à-dire cette inflation, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Elle n'est pas en train de venir de l'énergie, elle n'est pas en train de venir du secteur des biens, elle vient du secteur des services qui est très corrélé aux salaires. Or, les salaires aux États-Unis sont vraiment en train de revenir à des niveaux qui sont consistants avec une inflation autour de 2%. Cette inflation, elle doit venir de quelque part, cette inflation tirée par la demande. Ce quelque part, ça ne peut être que les salaires. Or, les salaires, ils sont très bien orientés. Et donc, le sentiment, quand même, c'est que dans les mois qui viennent, on va apaiser ce débat. L'inflation devrait permettre à Jérôme Powell de couper les taux à un moment dans l'année.
Merci beaucoup, Samy Char, chef économiste chez Lombard Odier et compagnie. Merci pour cette réaction aux chiffres de la Fed publiés cet après-midi. On y reviendra tout à l'heure à partir de 17h avec nos invités du club. Est-ce que la Fed peut encore envisager une baisse de taux dans ces conditions? On posera la question à nos deux invités. On va parler maintenant investissement dans le secteur des semi-conducteurs.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et si vous profitiez de la baisse récente de certaines valeurs pour investir dans les semi-conducteurs, on va en parler avec Jean-Edouin Réa, gérant de fonds chez Quadrille Capital. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Avec le développement de l'intelligence artificielle, vous vous dites, c'est le moment d'investir dans les semi-conducteurs.
Alors les semi-conducteurs, c'est le moment depuis déjà 18 mois, c'est le secteur qui a le plus poussé ou tiré à la hausse le Nasdaq en général.
Avec une valeur phare dont on parle tout le temps, qui est Nvidia.
Absolument. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout un cycle de capex au niveau physique. En fait, on construit des centres de données, des unités de calcul et 80% de la valeur de ces calculs, ça vient des GPU et donc ça vient de Nvidia. Et c'est la première couche, c'est la phase 1 en fait du CAPEX de l'IA. Donc on recommande...
C'est le haut du panier en matière de semi-conducteurs, les GPU.
Absolument. En fait, c'est un nouveau paradigme de calcul. Donc on a passé 40 ans à travailler avec du calcul en série, avec les leaders qui étaient Intel et AMD. Et aujourd'hui, en fait, on est dans le calcul qu'on appelle parallèle, qui est une forme de calcul plus probabiliste et moins précis, mais qui permet des calculs parallèles très 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 nombreux et qui s'approximent beaucoup plus à l'intelligence humaine et qui peuvent dire donc devenir de l'intelligence artificielle.
C'est précisément ce que produit Nvidia et qui sert pour Exactement. Les modèles d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Vous dites qu'il y a de gros besoins sur ces produits-là. Il y a également une demande pour les semi-conducteurs beaucoup plus économes en énergie. On a eu l'occasion d'échanger tous les deux sur ce plateau à propos de cet effort qui est demandé aux fabricants. Et là, vous dites qu'il y a un relais de croissance également.
Oui, plus le temps passe, on s'aperçoit que l'IA, c'est de l'énergie. Les deux vont ensemble. On parle d'une consommation d'énergie qui pourrait, je crois que c'est le PDG de Arm qui disait hier, la totalité de la consommation électrique que va demander l'IA d'ici 2030, c'est l'équivalent de ce que consomme toute l'Inde en électricité. Et ce que consomme aujourd'hui, en fait, les data centers, c'est à peu près, pour un chiffre US, c'est autour de 2 à 3% de l'électricité produite aux US. Et on parle de 7,5-8% en 2030. Donc
c'est ce sont des gros chiffres. Multiplié par 4.
Oui. Oui. Je pourrais même vous donner un autre chiffre. Aujourd'hui, la France, c'est à peu près 390 TWh de consommation annuelle en électricité. C'est le parc nucléaire. Et c'est la quantité exacte, à peu près, plutôt, de ce qui va être nécessaire pour à ajouter d'ici 2030, rien que pour l'IA. Donc il faudrait reconstruire un parc nucléaire français rien que pour cette industrie.
Rien que pour alimenter cette industrie. Ouais. Alors vous le dites, l'intelligence artificielle c'est une révolution, alimentée aussi par la géopolitique. Expliquez-nous.
Oui, parce que en fait l'IA c'est la, je sais pas, on va pas dire que c'est le nouveau pétrole, mais c'est le nouvel enjeu, un peu comme le nucléaire l'a été. Il y a des ramifications stratégiques, des ramifications militaires, des ramifications sociales. C'est très important et tout le monde en a le veut, le souhaite. Et les États-Unis en ont fait un enjeu de puissance. Donc ils ferment l'accès à cette technologie aux Chinois. Ils veulent absolument rapatrier les compétences industriels, ils ont les compétences de design, ils ont Nvidia, mais ils n'ont pas TSMC. Ils transfèrent en fait ces technologies. Ils ont voté plus de 50 milliards de dollars de subventions dans une loi qui s'appelle le US Chips Act et qui cherche en fait à financer en fait des nouvelles usines aux US. Et en sont bénéficiaires déjà TSMC, Intel, Samsung et Micron.
Donc cette logique de souveraineté, elle va, si je vous suis, alimenter les investissements dans le secteur des puces, et donc, là encore, c'est le moment d'investir.
Oui, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'en fait, certes, il y a Nvidia et il y a ces GPU et ces supercalculateurs, mais pour les investisseurs, il y a aussi les outils qui vont dans les unités de production, qui sont actuellement dans une très grande vague de subventions, et sur lesquels il y a la possibilité, je pense, d'investir de manière plus un peu moins cher ou un peu disons c'est un peu moins connu. Tout le monde connaît, c'est vrai, ASML qui est qui fabrique les machines Extreme Ultraviolet, donc elle
pour révéler
absolument
les circuits.
C'est de la photolithographie sur sur le silicium, mais il y a aussi ASM International qui est dans son giron mais qui est quand même une société à part entière qui fait de la déposition au niveau atomique pour on va dire la déposition chimique sur le silicium. Et il y a aussi aux États-Unis un certain nombre de sociétés qui sont comme Lam Research ou Applied Materials. Et en fait, il s'agit ici de sociétés qui sont en monopole ou en duopole et qui sont très peu nombreuses. Elles sont à peu près une quinzaine dans le monde et qui sont face à un mur de commandes. C'est une vague très importante parce que toutes les grandes régions du monde veulent se rapatrier cette industrie stratégique.
Alors, semi-conducteurs, c'est une catégorie assez large. ASML en Europe ne fait pas le même métier que ST Microelectronics ou que Soitec qui fait du substrat, du silicium sur isolant. Quel segment, à votre avis, est le plus intéressant en termes d'investissement ?
Tout de suite, je dirais les équipementiers qui vont dans les usines. ASML a en plus publié des chiffres qui ont déçu parce que TSMC n'a pas passé de commande ce trimestre. C'est plutôt une opportunité d'achat. ASM International, c'est un peu la même chose en termes de cycle. Après, tous les semi-conducteurs ne se ressemblent pas, mais on peut les diviser, on va dire, dans des grands... dans des grandes sections. La première, ce sont les microprocesseurs, dans lesquels on a Nvidia, Intel, AMD, etc. Ensuite, on a les analogiques, qui sont plutôt au contact avec le monde réel, donc ils gèrent des flux de température, de vitesse, etc.
Ce que fait STMicro.
C'est ce que fait STMicro. Ça se déploie beaucoup dans l'industrie et bien sûr dans l'automobile. Ça se déploie aussi dans les téléphones mobiles, dans les tout ce qui touche à la radio, par exemple. Voilà. Et le dernier grand segment, c'est la mémoire. Et ça, c'est plutôt une commodité. Mais en ce moment, elle est aussi en train de vivre sa petite révolution, puisque pour faire les calculs, supercalculateurs de l'IA, il faut une mémoire à très très forte, très grande vitesse, et il faut la coller littéralement au GPU. Hynix a développé une mémoire qui s'appelle HBM3, High Bandwidth Memory,
pour éviter que les bus de transfert, désolé d'être un peu technique, mais ralentissent le calcul du processeur.
Ouais. Et c'est en ce moment c'est une niche, il y a pas assez de production, donc c'est cher et donc les marges sont énormes. Et il y a Micron aux États-Unis et Hynix en Corée qui sont probablement les deux valeurs phares à avoir sur ce thème.
Alors vous nous dites il faut investir parce que c'est l'avenir évidemment dans ce secteur. Est-ce que ces valeurs elles sont pas quand même un petit peu chères? ASML se paie 48 fois les prévisions de bénéfices, Arm Holding 109 fois et Nvidia pratiquement 70 fois. On est vraiment parmi les valeurs les plus chères de la planète.
Oui et non. Alors, c'est sûr que comme on parle d'un très grand cycle, il faut aller au-delà du multiple de cette année.
Alors là, voilà, je vous parle des prévisions de résultats 2024, soyons précis.
Absolument. Bon, ASML, c'est une société qui est en monopole quasi absolu, à plus de 90%. Donc, elle sera toujours chère. Je n'oserais pas comparer avec des valeurs de luxe, mais il faut comprendre qu'elle est incontournable. C'est comme si dans l'aviation, vous n'aviez que Airbus et même pas un seul concurrent comme Boeing. Donc, c'est normal qu'elle soit cher. Ensuite, Arm, c'est un peu particulier. C'est une société qui ne fait que de la propriété intellectuelle. Elle n'a pas d'usine et elle vend à tous les développeurs de semi-conducteurs. Et elle tient dans les mains une des clés de l'IA, c'est de faire des processeurs qui qui soit moins énergivore. Donc elle est quand même un peu surachetée. Dans notre fonds, le Disruption Fund, on a 30% de semi-conducteurs. On n'a plus d'armes. On les a vendues déjà il y a plus d'un mois. Mais je pense que SoftBank va probablement faire des placements. Et lorsque vous verrez dans les nouvelles que SoftBank sort un peu, augmente la liquidité, je serai plutôt acheteur. Voilà. Le dernier, c'est Nvidia. Nvidia, vous devez absolument regarder sur 2 à 3 ans. La croissance des bénéfices va être de plus de 100% cette année. On parle quand même de 200 milliards de chiffre d'affaires cette année. C'est possible. Oui, c'est cher sur cette année, mais sur les 2 ans qui viennent, je pense que la valo, c'est pas ça le sujet. Le vrai sujet, c'est combien de temps est-ce que Nvidia va dominer le marché des GPU. Et je pense que la vraie alternative ou la bonne construction de portefeuille, c'est de prendre du Nvidia avec du Broadcom et peut-être même un peu de AMD, mais certainement du Broadcom qui fabrique des GPU sur mesure pour les GAFAM, dont on entend peu parler, qui sont des designs propriétaires, mais qui forment une alternative, un plan B, si je puis dire, pour ne pas que l'écosystème soit complètement captif à Nvidia. Donc dans le portefeuille de Disruption Fund, on a en fait les deux. On a Nvidia et Broadcom.
Merci beaucoup, Jean-Edwin Réa, gérant de fonds chez Quadrille Capital. J'espère qu'on n'a pas été trop technique. Vous avez compris le message. Si vous n'avez pas déjà investi dans les semi-conducteurs, il faut le faire grâce à l'intelligence artificielle. C'est un secteur d'avenir, même si c'est cher. Et sinon, si vous ne savez pas choisir, vous pouvez toujours investir dans un fonds qui, lui, intègre plusieurs de ses valeurs. Dans un instant, la famille BFM Bourse, vous connaissez le principe. Plusieurs sujets vont être abordés dans un climat décontracté. Sabrina Sadghi va me rejoindre en plateau et Romain Daubry nous parlera d'analyse technique. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Avec Stéphane Pedretti.
Il est un peu plus de 16h30 sur BFM Business. C'est l'heure de la famille BFM Bourse avec Sabrina Sadghi qui m'a rejoint en plateau. Bonjour Sabrina.
Bonjour Stéphane.
Journaliste BFM Business, BFM Bourse, également membre de la famille. Il ne vient jamais nous voir en plateau, il est toujours à distance. Romain Daubry, marché dérivé et info d'expert de Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous et à tous.
Et dans quelques instants, Vincent Auriac, le président d'Axilia, sera avec nous. On va parler d'investissement responsable. C'est difficile de faire de la performance dernièrement si on n'a pas dans son portefeuille des valeurs pétrolières ou des valeurs de la défense. C'est un sujet qu'on abordera avec lui. D'abord, cette séance à Paris, 8027 points en progrès de 0,57%. Ça s'accélère un petit peu, Sabrina.
Oui, ça s'accélère. La tendance était un peu encore fébrile il y a une petite demi-heure. Donc après les vents, après la Fed de Philadelphie, l'indice
Philly Fed,
voilà, j'avais le mot mais pas dans le bon sens. Maintenant c'est bon, le Philly Fed qui est ressorti nettement supérieur aux attentes. On est à 15,1, là où on attendait
1,5. On attendait. Ouais.
Donc ça témoigne d'une très très bonne, d'une robustesse de l'économie dans la région de Philadelphie. Et donc, en fait, là, ça commence à un peu sentir mauvais pour de futures baisses de taux de la Fed, puisque l'économie est robuste et c'est un nouveau signal sur la robustesse de l'économie américaine.
On peut même poser clairement la question, est-ce qu'on peut encore envisager des baisses de taux aux États-Unis dans ces conditions? Hier soir, déjà, le livre beige de la Réserve fédérale américaine disait que non seulement on n'était pas dans un scénario de ralentissement, mais qu'on avait même une accélération légère de l'activité au mois de mars. Et là, le Philly Fed publié cet après-midi montre une nette accélération sur le mois d'avril, uniquement dans la région de Philadelphie. On verra évidemment si c'est confirmé sur l'ensemble des États-Unis. On va s'intéresser à ce marché d'un point de vue technique avec Romain Daubry, Bourse Direct. D'abord, Romain, les forces en présence, on a déjà donné quelques éléments, on vous écoute.
Il manque effectivement des forces pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Si on regarde du côté des marchés dérivés, on a un intérêt qui est moyen et pas de création d'intérêt sur les niveaux actuels. On est à la veille, il faut le rappeler, de l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'avril qui se tiendra demain, midi pour l'Eurostox, 13h pour le DAX, 16h pour le CAC 40. Et donc, ces éléments-là sont toujours une période un peu charnière et technique qui peut accentuer des mouvements ou au contraire les canaliser. Et le mouvement naturel du marché est peut-être un peu bloqué par ces éléments-là pour l'instant. Donc, le rebond auquel on assiste, la préservation des niveaux techniques, est-ce que c'est juste technique pour l'instant? On va le savoir en début de semaine prochaine, plus précisément, avec en plus une saison de publication qui va augmenter nettement et beaucoup, beaucoup de valeurs du CAC 40 qui publieront et les premières GAFAM qui vont le faire aussi. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en revanche, du côté des couvertures dans les portefeuilles, les opérateurs se sont bien plus couverts, ils se sont bien plus protégés. La volatilité oscille autour de 18 sur le VIX, sur l'indice S&P, autour de 15 sur le CAC 40. Ce sont des niveaux significatifs de volatilité. C'est-à-dire que les opérateurs sont désormais vigilants, entre optimistes et vigilants. On n'est plus dans les niveaux de complaisance précédents. Donc ça limite aussi l'accélération baissière possible. Et puis on est sur des niveaux charnières. Est-ce qu'on va accélérer et doubler le score à la baisse? On approche en même temps de niveau cible sur les indices américains. Donc peut-être est-ce qu'on a déjà vu une grande part de la consolidation, alors qu'on sait en termes de force que beaucoup d'opérateurs veulent rentrer sur repli.
Oui, d'ailleurs, Romain, on est à 8029 points sur le CAC. Quels sont les niveaux techniques à surveiller sur l'indice vedette parisien?
Eh bien, justement, c'est ça qu'il va falloir déterminer sur les niveaux techniques, puisque les indicateurs de force ne sont pas hyper clairs et hyper déterminants. On a 7935 en bas sur le futur CAC 40 avril. Il faudra réajuster ce niveau-là de 70 points de plus pour le mois de mai, puisque les dividendes vont être versés dans cette période-là et le futur sera plus bas. Mais en tout cas, c'est 7935 en bas, c'est 8089 en haut. Tant qu'on est entre ces deux bornes-là, on reste dans un canal baissier et donc dans une phase de consolidation. Il faudrait vraiment en sortir en clôture pour déclencher un mouvement qui, à la hausse, permettrait de rallier les plus hauts, 8240 autour, et à la baisse, d'aller chercher 7817, pourquoi pas, et puis 7760 environ, qui serait un niveau de consolidation et de retracement assez idéal après la phase haussière qu'on a connue. On a à peu près des niveaux similaires sur les indices américains. Si on regarde le Nasdaq, la zone 17260, 17178, est le niveau de retracement idéal. On en est assez proche, mais l'indice rebondit pour l'instant. Sur le S&P, c'est 4957, 5000. On a flirté avec les 5000 hier, donc on est en train de réagir. Maintenant, on est loin des niveaux de réactivation haussière. Sur le Nasdaq, il faudrait déborder 17664. Sur le S&P, 5110. On n'est pas proche de pouvoir réactiver ces niveaux-là tout de suite.
Alors, côté valeur, on a ST Micro qui se distingue. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de signal, mais un niveau clé toutefois à surveiller.
Oui, c'est la troisième plus forte baisse du CAC, je précise.
Ben oui, effectivement, 0,80% de baisse pour le titre en ce moment. On n'a pas de signal haussier, mais on arrive à un niveau clé, ce niveau de 37,10 qui est préservé. Le titre vaut 37,74 à l'instant. Or, quand elle teste ce niveau-là, elle est en train de s'appuyer sur la ligne de tendance haussière sur laquelle elle a systématiquement rebondi. C'est au moins 7 ou 8 fois depuis 2019 et depuis qu'elle a réactivé franchement sa dynamique haussière. Ça, c'était mi-2016, mais en tout cas, cette ligne de tendance haussière a toujours été préservée depuis janvier 2019. Encore une fois, testée au moins 7 ou 8 fois. Donc, on est pile sur ce niveau-là. Donc, soit le titre préserve 37,10 et peut rebondir, aller chercher 42,88 et puis 48,74, c'est top récent. Soit on rompt 37,10 et là, c'est un signal vraiment important et baissier pour le titre. Donc, on est vraiment à une zone charnière, encore une fois, comme sur pas mal de valeurs et sur pas mal de niveaux sur les indices.
Merci beaucoup, Romain Daubry, Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure à la clôture du marché parisien. On débriefera cette séance avec nos invités. 16h39, la question du jour, elle est consacrée à l'introduction en bourse de Planisware. C'est le spécialiste français des logiciels pour la gestion de projet. Est-ce qu'à votre avis, c'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui, cette introduction va créer un appel d'air pour d'autres IPO à la Bourse de Paris? Trois réponses vous étaient proposées. Oui, non, ou alors Paris, c'est fini?
Alors moi, je l'espère que oui. De toute façon, je ne dois dire que oui. Je l'espère sincèrement parce que Planisware, là, il y a un début tonitruant. On gagne un peu plus de 20%, on est à 25%. Donc, premier pas boursier réussi pour Planisware qui avait mis sur pause son projet une première fois de s'introduire en bourse en octobre. Et là, les débuts sont plus qu'encourageants. Donc, ça pourrait décomplexer certaines valeurs pour se lancer en bourse. D'autant plus que le législateur essaye de relancer un peu l'attractivité de la place parisienne. Déjà, depuis quelques semaines, et c'est l'option qui a été choisie par Planisware, les entreprises ne sont plus obligées d'inclure les investisseurs particuliers dans leur introduction en bourse. Avant, elles étaient obligées de consacrer une partie, donc 10% du montant global de l'introduction en bourse. Mais cette fois-ci, dans le cas de Planisware, c'est une introduction en bourse qui est réservée aux institutionnels. Aussi, donc, je vous l'ai dit, le législateur travaille à une attractivité de la place de Paris. Le projet de loi est en cours d'examen donc à l'Assemblée nationale, dont l'introduction d'actions à droits de vote multiples, mais uniquement pour les introductions en bourse, ce qui pourrait permettre aux entreprises et aux fondateurs d'une entreprise de lever du capital tout en gardant un plus grand contrôle qu'avec des actions ordinaires, ce qui pourrait donc relancer aussi et faciliter l'arrivée, par exemple, de licornes en bourse.
Oui, non, ou Paris, c'est fini. Alors, Paris, c'est fini, moi, je pense absolument pas. Les chiffres ont clairement montré que Paris avait profité du Brexit. Deux chiffres. Un rapport de la Banque de France en 2022 montrait que Paris était devenue la première capitalisation en Europe devant Londres et Francfort. Ça, c'était en 2022. Et un rapport de la Caisse des dépôts en 2023 montrait que Paris était la place financière la plus attractive juste devant Francfort. Là, on parlait uniquement de la zone euro. Donc, Paris, non, je pense pas. Paris n'est pas fini. Alors après, je suis un petit peu d'accord avec toi. Est-ce que l'introduction réussie de Planisware va attirer d'autres IPO ? Généralement, évidemment, les patrons sont davantage enclins à introduire en bourse leur entreprise si ça se passe bien pour les autres, mais plus généralement ça dépend de ce qu'on appelle les conditions de marché, voilà, oui, en général, c'est-à-dire comment ça s'est passé pour les autres et est-ce qu'il y a des acheteurs en nombre suffisant. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà le résultat de la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. L'introduction en bourse de Planisware, un appel d'air pour d'autres opérations à Paris. Vous avez répondu non à 42%. Vous pensez donc majoritairement que les conditions de marché sont toujours pas réunies pour relancer ce marché des IPO. Pas très loin derrière le oui, 39%. Et il y a quand même une personne sur cinq qui pense que Paris,
ah oui,
nous en sommes désolés.
C'est
voilà.
Triste.
On va s'intéresser à l'actualité du jour. L'actualité, c'est aussi les résultats, enfin les chiffres d'affaires qui ont été publiés en nombre relativement important. Vous avez écrit beaucoup d'articles.
Toujours.
Dans l'équipe de BFM Bourse, disponible sur notre site internet, notamment sur Edenred. Edenred, c'est le spécialiste des tickets resto et des cartes prépayées.
Et oui, Edenred ne voit pas rouge aujourd'hui, mais plutôt vert. Hein. C'est la star du CAC 40. Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail a dégagé une croissance supérieure aux attentes. Elle est à un peu plus de 20% données comparables sur les trois premiers mois de l'année. Et la croissance du groupe, elle a été tirée par sa première division, hein, qui est la division avantage aux salariés. Comme vous l'avez très bien résumé, Stéphane, hein, c'est la division qui regroupe les titres restaurants, les titres cadeaux et l'inflation. Et là où l'inflation peut peser sur les comptes des sociétés, bah là non, Edenred en profite. C'est tout le contraire, puisque la hausse des prix pousse les gouvernements à relever les plafonds des montants à partir desquels les différents types de services préparés sont défiscalisés. Et côté employeur, en fait, ils sont incités à augmenter les rémunérations autres que les salaires, et cela passe par les produits d'Edenred. Et après cette publication, donc, le groupe a confirmé ses objectifs 2024.
Et puis, si la publication d'Edenred a convaincu les marchés aujourd'hui, il y en a une autre qui est fraîchement accueillie. C'est Sartorius, la filiale française, mais aussi la maison mère à Francfort, qui a vraiment déçu, hein, le marché.
Encore une fois, c'est encore une déception pour Sartorius et Dim Biotech. Hein, le fabricant de fournitures pour les laboratoires a publié un chiffre d'affaires trimestriel en repli et sous les attentes. Le groupe reste confronté à un ralentissement de la demande après des années de crise sanitaire, ce qui l'avait déjà conduit à lancer deux avertissements sur résultats en 2023. Du côté des prises de commandes, elles sont en progression, mais elles sont aussi inférieures aux attentes. Et un peu plus bas dans les comptes, le résultat brut d'exploitation s'est contracté d'un peu plus de 10%, de 13,2%. Et sur l'ensemble de son exercice, Sartorius Stedin Biotech continue d'anticiper une reprise progressive de l'activité au fil des trimestres. Et donc, la direction prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre et une marge d'exploitation courant supérieure à 30%. Et ce, grâce à son acquisition, c'était Polyplus. Et c'était une acquisition qui a été réalisée en début d'année dernière.
Merci Sabrina. Sartorius et Edenred, deux articles parmi d'autres que vous pouvez retrouver cet après-midi sur notre site BFM Bourse. 16h45, on passe au bullshito. Vous connaissez le principe, tous les jours on accueille un invité qui vient déconstruire une idée reçue, qui vient pousser un coup de gueule. Aujourd'hui c'est Vincent Auriac, le président d'Axilia, qui est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Stéphane.
Bonjour. Bonjour.
Alors, la question, le point qu'on va aborder aujourd'hui, l'ESG, qui rapporte un peu moins que les indices boursiers. Il faut le reconnaître, depuis le début de l'année, Vincent n'est déjà pas d'accord. L'ESG est responsable du départ des clients de chez BlackRock. Ça, c'est ce qu'on entend. Et vous, Vincent, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites c'est du bullshit. D'abord, les faits. BlackRock a perdu la gestion de 8 milliards et demi de dollars au Texas.
Exact. Qui s'ajoute à d'autres milliards qui avaient été perdus l'année dernière. C'est un fonds de dotation texan. Donc tout ça se passe très souvent au Texas, mais il y a du pétrole là-bas, donc ils sont un peu à cran. Ce fonds de dotation a dit, il n'y a pas assez de pétrole dans mon portefeuille, dans mon mandat. On est au Texas, c'est pas normal, c'est un scandale, donc je m'en vais.
Voilà. Oui, alors quel est le poids du coup de l'énergie fossile dans un portefeuille?
Ça a beaucoup baissé. Mmh. Il y a 40 ans, ça pesait 30% des indices. Donc je parle du S&P 500, hein, c'est une histoire américaine. Ouais. Et aujourd'hui, on est tombé à 4%. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de pétrole dans les indices, donc ces gens-là qui sont au cœur d'une économie qui est axée autour du pétrole, c'est un peu gênant pour eux, parce qu'il n'y a quasiment plus de traces de ce qui est leur quotidien. Entre-temps, c'est la tech qui a décollé. Le PER d'une valeur pétrolière, c'est 10, ça vaut plus grand-chose. Le PER d'une valeur de tech, c'est 40. Donc, tout de suite, ça fait beaucoup d'argent sur la tech et beaucoup moins sur le pétrole. Donc voilà, ouais. Ils sont un peu gênés.
Ouais, mais sauf que les épargnants aiment le pétrole, parce qu'on en a besoin, même en pleine transition, on en a encore besoin du pétrole.
Alors, effectivement, les épargnants aiment le pétrole, mais c'est un peu, je dirais, peut-être les traces du consommateur qui sommeille en lui. Si on regarde les chiffres, si on est vraiment factuel, 10 000 dollars placés il y a 10 ans, donc 2014-2024, ça fait 40% de gains. Le S&P 500 a fait 200%. Et le S&P 500 moins le pétrole, ça fait 210%. Donc si on est boursier épargnant, la perf, vous faisait choisir effectivement des portefeuilles diversifiés avec peu de pétrole.
Et l'ESG, c'est le coupable un peu idéal de cette sous-performance alors?
Oui, c'est le coupable, mais aux États-Unis, c'est un coupable qui n'est pas le bon, parce que les ETF là-bas, les ETF pèsent beaucoup d'argent, c'est plus de la moitié des encours, sont gérés de manière très indicielle et leur perf est très bonne. L'ESG, les ETF ESG n'ont pas du tout les problèmes qu'on a en France où c'est de la gestion active. Donc là, les performances sont moins bonnes. Là-bas, les biais par rapport au secteur, par rapport au style de gestion n'existent quasiment pas. Et les performances des ETF ESG sont bonnes. C'est pas ça qui explique le problème.
Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Vincent, mais on a quand même l'impression, notamment depuis le début de l'année, que c'est très difficile d'égaler la performance des indices si on n'a pas dans son portefeuille des valeurs de la défense, fossiles, pas forcément les pires, mais des énergies fossiles quand même.
Oui, mais ça, c'est en France. Aux États-Unis, il y a 4% de pétrole dans l'indice, il y a 4% d'ESG dans les fonds, dans les ETF ESG, 4%, il y a le même poids, et à l'intérieur, ils vont chercher le fameux best in class, la meilleure valeur pétrolière. Alors nous, en France, on est plutôt à les exclure, les valeurs pétrolières, comme dans le label ISR, mais là-bas, c'est pas le sujet. Là-bas, c'est, il y a 4% de pétrole, je mets 4% et je choisis, sur la base d'une notation ESG, les meilleurs pétroliers à mettre à l'intérieur. Donc c'est un autre sujet.
Alors c'est Big Three, plutôt. Ils en profitent pour pousser un peu leur pion sur leur politique ESG.
Ouais, vous dites que le problème est ailleurs, en fait.
Ouais, je pense que on commence à atteindre un moment où les trois gros gérants là, ce qui sont BlackRock, Vanguard, State Street, commencent à peser beaucoup d'argent. Ils pèsent 25% de la bourse. On nous dit que dans 10 ans, ils pèseront 40% parce que les flux n'arrêtent pas d'aller sur les ETF. Ça commence à gêner plein de gens, des gérants actifs qui étaient là depuis longtemps, et même dans les banques, par exemple, ils pèsent plus de 10%. Donc ils commencent à avoir un agenda où ils essayent de pousser des administrateurs et d'aller au-delà. Je dirais un peu de la maxime américaine, c'est-à-dire t'es gérant passif, t'es passif en tant qu'actionnaire, tu fais rien de particulier, voilà. Et comme ils essayent effectivement de faire autre chose, de maximiser, de pousser des agendas ESG qui sont là aujourd'hui, qui n'étaient pas là il y a 40 ans, ça gêne, quoi. Voilà. Ces gens-là ont pris beaucoup de place.
Mais quelle est la solution?
Alors les trois gros là,
parce qu'on sait qu'ils poussent les entreprises à avancer.
Ouais, alors si c'est ça qui est gênant, ils ont déjà
plutôt pas mal ça.
Ouais, mais bien sûr, ils ont le droit d'agir, de voter, donc on peut pas, ou alors il faut interdire le vote. Donc en tout cas les trois gros gérants là, State Street, BlackRock et Vanguard ont trouvé la solution. Ils vous redonnent les droits de vote, c'est-à-dire que le particulier peut choisir ce qu'on appelle le direct voice. Et donc, on lui redonne les droits de vote, plutôt que ce soit exercé par le département de vote de BlackRock. Il vous redonne les droits de vote, et c'est vous qui votez. Il y a déjà 20% des clients qui utilisent ça. Donc je comprends pas pourquoi le fonds de pension là, Texan, n'a pas utilisé ce truc-là. Il aurait utilisé ses droits de vote comme il veut. Mmh. Mais bon, je pense qu'il y avait vraiment pas assez de pétrole pour lui, quoi. 4%, ça lui va pas.
Et question... là, on enterre BlackRock.
Oui. Non, BlackRock, vous savez, je crois que dans les échos, il y a deux jours, il était question d'ailleurs que BlackRock revienne. BlackRock n'est pas mort. Les performances sont excellentes. Le cours de bourse. Il a rien dit. Tout est bon. L'accord de Paris, c'est pas BlackRock qui l'a voté. C'est 196 États, donc c'est pas leur sujet. Et donc voilà, ils sont partis pour rester. Donc le climat, bah, ça va continuer. L'ESG, ça va continuer en s'adaptant. Et BlackRock va rester. Ils sont droit dans leurs bottes et c'est parti comme ça.
Le point de vue de Vincent Auriac, président d'Axilia, non, l'ESG n'est pas responsable du départ des clients de chez BlackRock. Vous restez avec nous, Vincent. Les deux sujets à venir, je sais qu'il y en a un qui va vous intéresser particulièrement. D'abord, le Facteur X, c'est une publication qu'on a repérée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est de Lisa Abramovich sur le coût du logement aux États-Unis. Mmh. Actuellement, les logements sont le moins abordable pour les Américains depuis 1980.
Ah bah oui, et surtout que là, c'est tombé à l'instant, hein, les ventes de logements anciens aux États-Unis ont baissé de 4,3% sur le mois de mars à un peu plus de 4 millions. Donc très clairement, les taux en Europe ou aux États-Unis font très mal, hein, et sortent et évincent les ménages de pouvoir accéder au crédit. On le voit, les taux hypothécaires à 30 ans, on est un peu plus de 7%. Ouais. Et vu ce qui se profile, ça risque de pas s'arranger.
Et effectivement, et ça, c'est une raison pour la Fed de baisser ses taux, alors que dans le climat actuel et compte tenu des derniers chiffres macroéconomiques, les perspectives de baisse de taux aux États-Unis sont plutôt en train de s'éloigner. Pour que les logements soient plus abordables, il faudrait évidemment en construire davantage, mais il faudrait aussi baisser les taux pour faire redescendre les taux moyens hypothécaires. On va passer à la citation du jour, et je sais que ça va vous intéresser, Vincent. Oui. Au moment où le groupe Michelin a relancé le débat sur les salaires avec la mise en place de ce qu'ils appellent un salaire décent pour les salariés, ouais. Michel-Édouard Leclerc, lui, a commenté le salaire de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, 36,5 millions d'euros pour 2023. Il explique que ça ne le choque pas parce que Carlos Tavares, c'est un peu le Mbappé de l'automobile.
Mais même, c'est Carlos Tavares qui avait utilisé cette comparaison, hein, avec un joueur de foot pour se justifier. Je cite, « Il y a une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, il y a un contrat », ce qu'il avait expliqué lundi. Et le nom de Kylian Mbappé revient parce que c'est le joueur, l'un des joueurs de football les mieux payés et surtout français. Donc la comparaison est assez simple. C'est le Mbappé de l'automobile, un stratège, un opérationnel très fort qui n'a pas peur. Mais en tout cas, mardi, hein, les actionnaires de Stellantis ont voté à 70% la rémunération de Carlos Tavares.
Ouais, Kylian Mbappé, il gagne 6 millions d'euros par mois au PSG, donc deux fois plus que Carlos Tavares, et c'est vrai que ça choque beaucoup moins le salaire de Kylian Mbappé. Évidemment, dans les questions ESG, dans le G de gouvernance, il y a la question de la rémunération des dirigeants. Vincent Auriac, est-ce qu'il faut mettre une limite, ou est-ce qu'a priori, si un dirigeant est compétent et qu'il crée de la valeur dans l'entreprise, alors c'est normal qu'il soit très bien payé?
Alors, j'ai lu le rapport annuel de 420 pages de Stellantis, pas en entier, hein. J'ai fait des recherches par mots-clés sur un certain nombre de mots. Il y a une centaine de pages sur la gouvernance, le salaire. Il y a des tableaux extrêmement intéressants où on compare le salaire de Carlos Tavares avec le salaire moyen des salariés de Stellantis. Il faut savoir que son salaire dépasse 10 millions d'euros déjà depuis 2019.
Oui.
On en parle cette année, mais il était déjà à 10 millions d'euros en 2019. Le salaire moyen a augmenté de 16% en 5 ans, alors que le sien a fait x3. Il gagne 530 fois le salaire du salarié moyen. Voilà. Donc je pense que ça marque quelque chose, quoi. C'est que Stellantis est devenu un acteur mondial. Donc c'est un salaire mondial. Le salaire de l'employé de base, il est resté local. Voilà, donc ça marque la Ligue 1, quoi. Effectivement, si on reste dans la métaphore du football, il est en Ligue 1 maintenant, c'est Stellantis, donc le salaire doit suivre. Après, moi j'aurais tendance à dire, est-ce que le bénéfice de Stellantis est calculé comme il faut? Vous savez que je suis un monomaniaque du climat. Donc je pense que les entreprises doivent payer leur facture carbone. J'ai fait un calcul. La facture carbone, elle est à peu près de 60 milliards. Chez Stellantis, donc si vous enlevez la facture carbone au bénéfice, ça fait 45 milliards d'euros de pertes, enfin de dollars de pertes, et il n'y a plus de sujet de bonus de Monsieur Tavares. Son salaire redescend au fixe, qui est quand même de 2 millions de dollars. Et voilà, donc Il faut, ça dépend ce qu'on regarde. Voilà. Effectivement, si on regarde que la manière dont c'est calculé. Alors, je précise d'ailleurs qu'il n'y a que 15% d'indicateurs ESG dans le salaire de M. Tavares. Tout le reste, c'est des critères classiques, le bénéfice, le TSR, le cours de bourse.
Alors, il y a notamment une prime de 10 millions d'euros pour la transformation du groupe Stellantis. Vous faites la comparaison avec les employés de Stellantis. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Si Carlos Tavares n'avait pas permis de faire progresser les bénéfices de manière aussi spectaculaire, peut-être que certains de ses employés auraient perdu leur emploi.
Ça, c'est tout à fait possible. Il faudrait faire une étude là-dessus. C'est pareil, le plus 16% des salaires, est-ce que c'est l'augmentation des salaires? Est-ce que c'est simplement le fait d'avoir absorbé des sociétés où le salaire était déjà plus élevé avant? Voilà, je ne sais pas. C'est pas expliqué dans le rapport, ça. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que Michelin, aujourd'hui, a sorti une mesure sur le salaire décent, où il va augmenter 7000 salariés dont il considère qu'ils n'étaient pas payés correctement pour pouvoir se loger, etc. Voilà, donc,
avec déjà des critiques de la part de certains, le salaire décent pour Michelin à Paris, c'est deux fois le SMIC.
Ouais.
Pour une famille avec 4 enfants.
Et plus 20, je crois, à Clermont-Ferrand.
Oui, 25 000 euros à Clermont et 40 000 à Paris. Bah oui, le salaire décent, c'est ça. C'est par rapport à un niveau de vie local. Donc, c'est pas le même. Alors, ça crée une distorsion. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un salaire qui n'était pas le même à poste égal dans un groupe. Et là, effectivement, le salaire décent, c'est 40 000 dans un coin et 25 000 dans l'autre. Bon. Est-ce que d'ailleurs, peut-être que les gens reviendront à Clermont-Ferrand quand ils verront ça. Et puis, ça va faire monter le prix de
l'immobilier. Là-bas.
Voilà.
Ouais.
Donc, il y a des effets un peu de bord, toujours, qu'on ne maîtrise pas.
Mais le fait qu'on se pose la question et qu'on évoque ces sujets, ça vous paraît être une bonne chose?
Ah ben, je vais vous dire, moi, quand j'ai vu ça ce matin, cette histoire de salaire décent, avant de faire une facture carbone, on voulait faire une facture sociale et on voulait travailler là-dessus. Le problème, c'est que vous n'avez pas les infos. Comment voulez-vous savoir qu'il y a 7000 personnes chez Michelin qui ont besoin d'une augmentation? Il y en a 132 000 chez Michelin. Les 125, d'après ce qu'ils nous disent, les 125 000 autres, apparemment, ça va. Comment voulez-vous savoir qu'il y a 7000 personnes qui sont mal payées chez Michelin? Donc, c'est un vrai sujet, surtout aujourd'hui avec l'inflation, tout ce qu'on voit.
Mais le partage de la valeur. En
partage de la valeur, mais il n'y a que les gens de Michelin pour le savoir. Le DRH a toute l'info. Nous, on n'a rien comme information. Donc, mais c'est un vrai sujet. Moi, je trouve que c'est une très bonne mesure.
On peut leur savoir gré d'avoir le sujet sur la table.
Ouais. Alors, ils n'ont pas chiffré la mesure, d'ailleurs. Ils ont dit que ce n'est pas un sujet. Voilà. Ces gens-là devaient être augmentés. Donc d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose qui s'était passé aux États-Unis. Il y a le patron de Salesforce. Quand il rachète une boîte et que les salaires sont inférieurs dans la boîte qu'il rachète au sien, chez Salesforce, Marc Benioff, il fait un chèque. Il aligne tout de suite les salaires sur le mieux-disant du groupe. Voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas, je dirais, de décalage de salaire. Donc, voilà, c'est des décisions de gouvernance, ça. C'est le patron en haut qui dit, non, on arrête ça. On aligne. C'est de l'équité. Voilà.
Merci beaucoup, Vincent Auriac, président
d'Axidia. Merci de l'invitation.
Merci d'être venu en plateau défendre vos convictions en matière d'investissement responsable et en matière de gouvernance, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Sabrina.
Merci, Sassi. Stéphane.
Demain, la famille sera de retour à 16h30. Dans un instant, le club avec nos invités. On va se pencher évidemment sur l'accélération de l'activité dans la région de Philadelphie aux États-Unis. Est-ce que c'est un signal précurseur d'une accélération plus marquée de l'économie américaine? Est-ce que ça enterre définitivement les perspectives de baisse des taux pour les prochains mois aux États-Unis? On en parle avec Christopher Dembig de Pictet Asset Management et de Alain Pitou qui est spécialiste en ESG. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.